Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial dans la communauté parce que nous avons eu beaucoup d'invités et nous avons fêté l'anniversaire, le 80e anniversaire de notre sœur Rachel et c'était pour nous une grande joie. Et je n'ai pas prêché ce matin à la chapelle, mais je pense à vous et je pensais vous donner quand même quelques paroles du Seigneur afin de ne pas vous laisser comme ça. Et voilà ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est quelques notes qui sont prises là pour vous et que je voudrais partager avec vous. La question que Jésus pose dans Luc 8, 22, 25, quand vous avez peur, c'est « Où est votre foi ?» Vous savez, toute crainte est absolument inconnue dans le ciel. Pourquoi ? Parce que Dieu est présent. Quand Dieu... Et il faut qu'on réalise que Dieu est omniprésent. Il est aussi sur la terre. Il nous est donc possible de triompher de la crainte. Il est aussi présent sur la terre qu'au ciel. Dieu ne connaît pas la peur. Il l'ignore. Ceux qui croient en lui ne devraient pas la connaître non plus. Avoir l'Esprit de Dieu en soi équivaut à avoir ce qui constitue la partie spirituelle du ciel. L'Esprit qui a autorité sur tout et même sur la crainte. Jésus, il est avec ceux qui exercent leur foi aujourd'hui au même titre qu'il l'était avec ceux qui avaient la foi il y a 2000 ans. Ça, c'est une chose simple. Mais tellement profonde, et on a tendance à l'oublier en compliquant les choses avec des points de doctrine. Un des plus grands exemples de cette vérité, on le trouve dans le récit de Jésus qui apaise la tempête sur la mer de Galilée, je crois, oui, c'est ça. Il avait ordonné à ses disciples de monter dans une barque avec lui pour rejoindre l'autre rive, et ils partent tout joyeux, tout détendu. Soudain, voilà qu'il y a une tempête qui se lève, et la crainte les saisit. À mesure que les éléments se déchaînent, leur crainte s'enfle. Hein, c'est pas un petit peu notre cas, nous. En très peu de temps, ils sont carrément pris de panique et leur imagination s'affole. Voilà ce que je vous disais vendredi, l'imagination. Ils ont oublié tout de Jésus. Il leur semblait que personne ne se souciait de leur vie. Et ils avaient peur de ne pas arriver à destination, ils avaient peur de couler. Bien, ils avaient toutes les bonnes raisons de ne pas être effrayés parce que Jésus était avec eux, parce que Jésus était présent avec eux, en chair et en os, il l'avait là. Et eux aussi, ils se sont payés le luxe d'avoir peur. Vous voyez que bon, Jésus connaît notre cœur, il sait très bien, il ne va pas vous faire des reproches si vous avez peur, il ne va pas vous faire des reproches ou vous punir, c'est normal. Ensuite, ils avaient toutes les bonnes raisons de ne pas être effrayés parce que ils avaient mis leur foi en lui, ils avaient foi en Jésus-Christ et ils savaient que Jésus était bon, ils avaient vu les miracles et tout ça, ils étaient sûrs de Jésus. Leur conviction de foi qu'ils auraient pu exercer dans la pleine sécurité de la traversée de la mer, eh bien, ils l'ont laissé se détériorer en crainte, en panique du désastre imminent, tout simplement parce que leur imagination s'est mise à s'affoler. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu. C'est pas parce que vous avez peur que vous ne croyez pas en Dieu. C'est simplement votre imagination qui s'affole. Alors, ils crient et ça réveille Jésus parce que Jésus, il est en train de dormir dans la barque. Et Jésus se lève et il apaise la tempête. Et lorsqu'ils ont atteint l'autre bord, eh bien Jésus leur pose cette question, une question qui résonne encore à travers les siècles. Où est votre foi? Alors eux, ils ne répondent pas à Jésus, mais plutôt ils se sont dit l'un l'autre, mais quel est cet homme? Il commande même au vent et au flot, et voilà qu'ils obéissent. Voyez, Jésus cherchait à amener les 12 à prendre conscience de leur responsabilité pour leur exercice de leur foi dans les circonstances critiques de leur vie. S'ils avaient exercé leur foi dans ce cas-là, la crainte ne serait pas emparée d'eux. Ils n'auraient pas laissé leur imagination s'affoler comme ça. La tempête ne les aurait pas transis d'effroi. Ça leur aurait pas fait perdre leur contenance au point d'accuser Jésus même de ne pas se soucier de leur vie. Maître, ne vois-tu pas, on périt. Le seul reproche de Jésus fut simplement, mais où est votre foi? Frères et sœurs, quand on va sur là-bas, en Israël, et qu'on visite la mer de Galilée, et on peut faire des excursions là-bas, prendre un bateau, alors les flots sont bleus, c'est magnifique. Et les gens qui ont été élevés là-bas, ils disent que c'est une mer qui est perfide. Elle est située à peu près à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est nichée au point le plus bas entre les collines de Galilée et les monts de Galaad. C'est étendue d'eau, malgré des dimensions absolument restreintes, c'est pas grand. Elle est sujette à des tempêtes violentes et soudaines. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Alors que tout était absolument calme jusque-là, les eaux peuvent tout d'un coup se soulever, se déchaîner si rapidement que, à moins que les barques ne regagnent le rivage très très, très rapidement, elles sont brisées, elles sont retournées par la tempête. C'est comme ça. Cela, Jésus le savait très bien. Et les disciples aussi, c'était des hommes de métier. Ils savaient aussi que la foi est plus forte que n'importe quel ouragan. Jésus le leur avait appris depuis le temps qu'ils étaient avec lui, hein. Et quand il leur ordonne aux disciples de monter dans la barque, il dit « Passons de l'autre bord. » En cas de tempête, ou bien ils devaient exercer leur foi et arriver à bon port, ou bien, apeurés, gagner l'autre rive, ne pouvait signifier pour eux qu'aller au fond. Vous me suivez là? Et Jésus, s'avissant d'un endroit tranquille, s'étendit et s'endormit dans la barque sur un coussin à l'arrière du bateau. Il avait dit « Allons de l'autre bord », il n'avait pas dit « Allons au fond de l'eau ». Lui, il avait foi dans ce qu'il disait. Mais les disciples, on ne peut pas, chacun sait ça, se détendre et s'endormir quand on a peur. Jésus, il avait la certitude que ses disciples étaient en pleine sécurité. Dieu tenait la mer dans ses mains. La foi en lui, elle était, Dieu était à la barre. Voilà. Et ils s'endormirent. Quand la tempête s'est mise à mugir, les disciples, ils ont oublié tout de la présence de Jésus et de sa promesse qu'il avait donnée, des paroles fermes qu'il avait données, et ils se sont mis à crier « Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Leur cri d'effroi nous apprend trois choses. Écoutez bien ça. 1. Ils croyaient qu'ils étaient seuls sur la mer et que nul ne s'inquiétait d'eux. Vous me direz, ils ont invoqué Jésus, oui, mais ils priaient avec peur, pas avec foi. 2. Ils croyaient que, puisqu'ils allaient couler, il était devenu inutile de lutter pour essayer d'atteindre l'autre rive. 3. Ils croyaient qu'ils étaient démunis de tout moyen d'échapper à la tempête. Alors, qu'est-ce qui primait dans leur esprit? C'était la tempête. C'était sa force effroyable, ça n'était pas Jésus, sa parole donnée et sa puissance. Le danger qu'ils couraient, et non la protection dont ils étaient entourés, voilà ce qui préoccupait leur pensée. Le danger qu'ils couraient, et non la protection dont ils étaient entourés. Ce qui les préoccupait, le danger, n'est-ce pas, c'était la solitude et non la présence de Jésus. Voilà sur quoi toute leur attention était fixée. Jésus, lui, était positif dans l'exercice de sa foi, mais eux, ils croyaient négatif. Leur foi était détériorée. Tout était sans dessus dessous. La tempête, elle était là. Elle était là, à l'intérieur d'eux. Alors, enveloppé dans les bras de la foi, Jésus, lui, s'était couché et puis s'était endormi. Que mugissent les flots, peu lui importe, il sait que son Père est là. Les disciples, eux, ils ont oublié Jésus et ses promesses. Et voilà presque déjà mort, non pas seulement d'être noyé, mais mort de peur, réduit à l'état d'une bête aux abois, leur imagination divague. Jésus, lui, il est inébranlable. Il sait que l'Esprit de Dieu plane au-dessus d'eux, il les conduit, il les protège, il les défend. Les disciples, au contraire, se laissent aller à croire que peu importe ce que le maître a dit, ils n'y pensent même plus. Toute la différence, vous voyez, toute la différence entre l'attitude de Jésus et celle de ses disciples est dans la façon de croire. Dans leur crainte, les disciples étaient jetés dans le trouble, dans la confusion, ne sachant pas ce qui allait survenir exactement, ils n'en étaient pas sûrs. Alors ils en venaient à raisonner. Il devenait fou. La folie. Vierge, mais vierge folle. Vous voyez? Vierge folle. Tout ce qui se vit, tout ce qui vit, se reproduit selon son espèce, la Bible nous dit. La crainte, puis on le voit dans la nature, hein? La crainte de ces hommes engendrait aussi la crainte. La foi de Jésus engendrait la foi. Les disciples s'enferraient de plus en plus dans leur crainte. La foi de Jésus, elle grandissait, elle s'affermissait constamment. Alors lorsque les disciples sont revenus à eux-mêmes, ils se sont souvenus que Jésus était à bord avec eux et se précipitèrent vers lui, dormaient profondément. C'est un drôle de tableau. Tous les muscles du corps de Jésus étaient détendus. Il ne faisait aucun mauvais rêve. Le tonnerre même ne l'aurait pas réveillé. La foudre ne l'aurait pas fait sursauter. Les ballottements de la barque ne le troublaient pas. Il dormait du sommeil d'un homme qui exerce positivement et concrètement sa foi en Dieu. Vous voyez les disciples? Ils se trouvaient dans le même bateau, sur la même mer, faisant face aux mêmes difficultés, dans les mêmes circonstances que Jésus. Lui dormait, eux ils se lamentaient, ils criaient. Lui il était au repos, tout détendu, eux ils étaient hyper tendus. Lui il était couché, eux fébrilement, ils allaient, venaient à bord, lui croyant en Dieu. Eux ils avaient oublié qu'ils avaient un seul sauveur, lui. Ils croyaient à un passage effectué en toute sécurité d'un point à un autre. Eux, ils croyaient au naufrage. Alors il lui demande s'ils s'inquiètent de ce qui leur arrive. Et Jésus répond, mais où est votre foi? Il lui reprochait de les oublier. Lui, il les reprit de ne pas avoir réussi à mettre leur foi en action. Ils hurlaient d'épouvante en se tournant vers lui. Et lui, il leur parlait calmement de leur foi perdue. Vous savez, quand on entend ces chrétiens qui hurlent dans les prières, qui crient, « Seigneur mon Dieu !» La Bible me dit, elle vous dit la même chose, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Pourquoi crier comme ça? Jésus n'est pas sourd. Pourquoi crier comme ça? Ça montre qu'il y a une crainte au fond du cœur. Alors il les reprend de ne pas avoir réussi à mettre leur foi en action. Ils agissaient comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Et Jésus agissait comme quelqu'un qui possédait la vie de Dieu. Ils oubliaient leur contact précédent avec le Maître et lui. Ils leur rappelaient leur marche quotidienne à ses côtés. Ils étaient des hommes qui avaient laissé leur crainte chasser Dieu de leur pensée alors que Jésus était rempli de la pensée de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et voilà ces hommes qui secouent Jésus pour le réveiller, qui crient « Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» Lui se lève. Laisse un instant le vent et les embruns lui fouetter le visage, puis, au travers de l'eau, qui s'est engouffrée dans ce bateau, il s'avance, et là, debout, face au vent et à la mer déchaînée, mais l'âme tranquille, l'âme calme. Le frère Lesquif, il est quand même sur le point d'être englouti par les flots en furie. À vue humaine, la situation était désespérée. L'ouragan, il s'apprêtait à renfermer ses longs doigts sur une espèce de petite proie facile. Jésus ne lui bronche pas sa crainte. Il n'avait pas de crainte. Pas de prise sur Jésus. La crainte n'a pas de prise sur Jésus. Lentement, il lève la main. Les disciples se serrent autour de lui et il parle d'une voix forte, claire, et il fait entendre cet ordre. Silence ! Tais-toi ! Tout s'apaise. Le vent cesse, les vagues tombent, et il se fait un grand calme. Puis voilà le rivage. En très peu de temps, on y arrive. Jésus n'a parlé que deux fois. Au vent soufflant en tempête, il dit « Silence, tais-toi !» Et aux disciples, il dit « Où est votre foi ?» Eux, ils s'étonnent, ils s'interrogent. Mais qui peut-il bien être ? Il commande au flot et au vent, et il s'en fait obéir. Remarquez, ils auraient pu dire « Quelle chose puissante que la foi qui commande au vent et au flot !» Par sa question « Où est votre foi ?», l'accent est placé sur « Votre ». Jésus il laisse très bien entendre que notre foi, c'est la puissance qui ordonne, c'est la puissance qui fait obéir la tempête. Où est votre foi ? L'accent se place sur le mot « votre ». Est-ce que vous voyez la différence entre Jésus et les disciples dans leur façon d'agir et de parler ? Ça vient de ce que seul Jésus croyait pleinement en Dieu. Il savait quelle était la puissance de la foi pour retourner une situation apparemment désespérée. Et puis notez que si les disciples étaient effrayés, ce n'était pas la tempête qui avait créé leur panique, mais leur façon de croire qui était détériorée, qui était déréglée. Jésus ne leur a pas dit « Quoi ? La tempête vous a effrayé ?» Mais il leur a dit « Où est votre foi ?» Ça voulait dire « La foi, vous ne l'avez pas. » Ça voulait dire « Votre foi, vous l'avez laissée s'échapper ou se détériorer. Où elle est ? Dans quel état est-elle ?» Vous voyez cette absence de foi chez les disciples de Jésus. Ça laissait ces hommes sans défense devant cette tempête. Leur sentiment du danger les remplissait de crainte. C'est ainsi que les choses vont. L'absence de foi engendre le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité engendre la crainte. La crainte engendre un sentiment d'angoisse épouvantée, intermittente d'abord, puis permanente. Alors l'imagination s'affole et la névrose s'installe pour tourner bientôt en maladie mentale, en psychose. Et c'est le seuil de la démence. Une foi active, par contre, établit le contact avec Dieu. Ce contact, il devient durable, il engendre la confiance. Une confiance permanente, elle apporte un sentiment de pleine sécurité, ce qui conduit à une détente reposante, qui crée, qui génère l'équilibre. Et l'équilibre, il contribue à nous doter d'un jugement sain, solide et éclairé. C'est ainsi que j'en suis arrivé à croire que Dieu tient toutes choses dans ses mains, que rien ne lui échappe, que tout est prédestiné, que Dieu est présent toujours. Pourquoi craindre ? Pourquoi avoir peur ? Seule la foi est capable de maîtriser la crainte, mes frères et sœurs. Par la foi, nous sommes rendus capables de croire droitement. Alors seulement on est relié avec Dieu et armé de son pouvoir contre la tempête. Tais-toi, sois tranquille. Dieu parle et la tempête s'évanouit. La crainte, elle ne disparaît pas en réponse à notre souhait exprimé. Elle ne s'en va pas quand on lui dit de déguerpir. Notre jeu de l'imagination ne la met pas dehors. Mais une chose est certaine, devant la foi, la crainte recule. Croire, c'est la chasser. Et comment ça ? Comment le fait de croire fait-il s'évanouir la crainte ? Premièrement, en nous souvenant que Dieu est. Sur la barque, les disciples finirent par se rappeler que Jésus est présent à bord. Lorsqu'ils allèrent vers lui, ils s'aperçurent qu'il était prêt à secourir. Deuxièmement, en ne rendant pas la tempête ou même Dieu responsable de notre crainte, où est votre foi, demandait Jésus. leur foi n'était pas jetée contre la tempête, et c'est pourquoi ils étaient craintifs. Leur manquement à croire Dieu les avait remplis du sentiment de danger. D'où l'irruption de la crainte dans le vide de leur cœur. Troisièmement, en plaçant toute confiance en Jésus, quel est donc cet homme pour qu'il commande au vent et au flot et s'en fasse obéir, disaient les disciples. Voyant que Jésus avait un aussi grand pouvoir, ils ont éprouvé à son égard un respect immense et une foi toute nouvelle. Frères et sœurs, résumons ça. Les disciples en vinrent à se rendre compte qu'ils étaient effrayés parce qu'ils avaient oublié Dieu et ne mettaient pas leur foi en action. Ils allèrent trouver Jésus, lui dire leur angoisse, et il leur répondit, puis apaisa la tempête. « Lorsque la tempête vous assaille, tournez vos cœurs et vos pensées vers Dieu. Rappelez-vous que sa grande puissance peut vous rendre libre. Allez à lui, criez-lui votre besoin d'un secours rapide. Croyez qu'il est capable de vous délivrer personnellement, et vous allez voir les faits. Souvenez-vous, si vous avez peur, que Jésus vous pose cette question. Où est ta foi ? Seigneur Jésus, tu m'as posé cette question quelquefois dans ma vie. Et cela m'a aidé, parce que c'était la bonne question. Et ce soir, en ce moment, pour celui ou celle qui écoute ce message enregistré, tu poses encore cette question. Où est ta foi ? Rappelle-toi des promesses de Dieu, rappelle-toi de sa bonté, rappelle-toi de sa grande puissance, rappelle-toi qu'il a dit « rien ne peut vous nuire ». La foi de l'apôtre Paul était telle qu'il en arrivait à dire « la mort m'est un gain ». Mais qu'est-ce qui est plus effrayant que la mort ? Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, aide-le, aide-la à ne pas avoir une imagination folle qui se laisse entraîner et qui entraîne la foi loin. Où est ta foi ? Garde ta foi comme un précieux trésor. Garde ta foi dans ton cœur, dans ton intelligence. Renouvelle ta foi, mon frère, ma sœur, en lisant les Écritures, en l'exerçant, en la musclant, en te saisissant de chaque occasion pour pouvoir la faire grandir, en ne te plaignant pas de ce qui t'arrive, mais en manifestant ta foi, en ne murmurant pas, en n'accusant pas la tempête ou les gens ou les choses, mais en exerçant simplement ta foi avec autorité, comme Jésus l'a fait. Il nous a enseigné comment faire. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur de bénir mes frères, mes sœurs qui écoutent ce message tout simple. Soyez bénis au nom de Jésus et allez et ne péchez plus par manque de foi. Amen.